Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les Dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Nous avons évoqué les articles du catéchisme la dernière fois qui pour essayer de refaire le point sur des mots importants hein, comme révélation, rédemption et récapitulation. Ce mot récapitulation qui nous semblait peut-être un peu moins connu. S'il est question de récapitulation, les trois paragraphes suivants, 519, 520, 521, à leur manière, récapitulent notre vie spirituelle, pourrait-on dire.
Et oui, c'est très beau. C'est très beau de penser que le catéchisme a voulu nous donner pas seulement, une nourriture intellectuelle. Et on reproche parfois au catéchisme d'être inaccessible, et visiblement ce sont des personnes qui ne l'ont pas étudié qui disent cela. Il est vraiment très nourrissant, et là, dans ces trois numéros, vous avez un peu un résumé, une récapitulation des effets de cette révélation, de cette rédemption, de cette récapitulation en nous. N'oublions pas que dans le credo, on dit que le Christ est venu, propter nos et propter nostram salutem. Il est venu pour nous et pour notre salut. Et c'est vrai que les théologiens contemporains, comme Urs von Balthasar, l'ont beaucoup saisi, cela, ce pour nous, qui avait été peut-être trop exagéré à l'époque de Luther, mais qui disait une part de vérité. Ce pour nous, c'est important de ne pas l'oublier, de ne pas rester seulement dans des abstractions. Jésus veut notre justification, c'est-à-dire la tienne, la mienne, la nôtre. Tous ceux qui sont là en ce moment en train de nous écouter, doivent savoir que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, comme dit très bien Romains 4, 25. C'est une formule extrêmement simple, raccourcie, mais qui dit l'essentiel. Mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Notre justification, c'est Dieu qui nous rend juste, c'est-à-dire qui nous rend debout, et qui fait que nous pouvons déjà commencer, en quelque sorte, à ressusciter du point de vue de notre âme avec le Christ, en attendant notre résurrection d'entre les morts le jour du jugement final. Et être assumé ainsi par l'unique juste qui nous rend juste par sa justice, par sa communion avec le Père, est quelque chose d'extraordinaire. Jésus est notre avocat auprès du Père. Il nous justifie par le don de lui-même, par le don de son sang versé. Et il y a cette expiation que Jésus a réalisée par la croix pour ce bien spirituel qui nous atteint chacun personnellement. Vous voyez, Jésus ne s'est pas contenté, de dire « je vous donne le moyen, la recette pour être sauvé ». Il est venu nous soutenir dans notre lit de malade, jusqu'à porter la petite cuillère en nous montrant le médicament à prendre pour l'absorber. C'est-à-dire, Jésus s'est rapproché de nous avec une intensité extraordinaire pour que nous puissions un jour être devant la face de Dieu avec lui, puisqu'il l'est déjà en notre faveur pour l'éternité, comme dit Hébreux 9, 24. Et du coup, nous avons un modèle pour vivre. Saint Paul le dit d'ailleurs, initiant la théologie des saints, qui est si fortement développée dans l'Église catholique et chez nos frères orthodoxes, « Imitez-moi, mon modèle à moi, c'est le Christ ». On a dit tout de la théologie des saints, par cette expression de 1 Corinthiens 11, 1. Et Jésus, donc, s'est montré le modèle de Paul, et nous avons comme modèle, bien sûr, le Christ, mais nous avons le bénéfice de tous ceux qui ont déjà été justifiés et qui nous rapprochent du Christ comme étant des modèles. Ça ne veut pas dire que ce soit des intermédiaires, s'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais il y a des participations de cette médiation, la Vierge Marie en première place, puis tous les saints qui sont déjà au ciel et qui nous aident à rentrer dans l'esprit de ce modèle. Le modèle, c'est Jésus, l'homme parfait, d'ailleurs dit très bien le Gaudium et Spes numéro 38, reprenant une expression du concile de Chalcédoine, et nous l'évoquions précédemment. Jésus a voulu nous donner le modèle d'une humanité parfaite pour nous aider à désirer cette perfection. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est une perfection non seulement ontologique, mais même morale. Ça débouche jusqu'à la morale. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre des à-côtés quand on veut être saint. On veut aller jusqu'au bout de ce pourquoi Jésus est venu, qui nous a fait miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Jésus nous a montré un exemple de miséricorde parfaite. Et nous devons l'imiter. Mais évidemment, ce n'est pas une imitation matérielle. Nous n'arriverons jamais à marcher sur les eaux. Mais nous aurons à imiter le sens toujours d'amour, de rejoindre les autres comme Jésus l'a fait quand il marchait sur les eaux pour rejoindre la barque, la future barque de l'Église. Nous avons sans cesse à l'aimer, cette Église. Comme disait saint Augustin, c'est celui qui a l'Esprit Saint qui aime l'Église, ou c'est celui qui aime l'Église qui a l'Esprit Saint. Et il y a cette attirance de Jésus pour aller dans la barque, pour rejoindre ses apôtres, pour rejoindre ses disciples. Nous devons l'imiter. Alors il y a sa prière. C'est très beau de voir que dans saint Thomas d'Aquin, dans les mystères de la vie du Christ, qu'il a beaucoup développé, à l'inverse de beaucoup de théologiens qui ont oublier les mystères de la vie cachée, de la vie publique de Jésus, il commence par la prière du Christ, et puis il développe, de la question 31 à 59, tous les mystères de la vie du Christ, jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et c'est dans cette tertia pars de la Somme de théologie qu'il a fait cette admirable sculpture théologique auquel j'invite les auditeurs à venir y puiser des perles, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses sur mieux comprendre comment Jésus est notre modèle, comment on peut l'imiter, comment on peut rentrer dans son sentiment, comme dira l'Épître aux Philippiens, avant la grande hymne bien connue que nous chantons fréquemment, « Ayez les sentiments du Christ ». Il y a vraiment cette imitation dans l'intériorité de Jésus, et pas seulement, bien sûr, dans la factualité extérieure qui était la sienne. Mais de temps en temps, il peut y avoir vraiment des imitations semblables. Oui. Certains peuvent avoir des charismes de guérison, des charismes de discernement, des charismes qui viennent du Christ. Un charisme n'est charisme que quand on peut le faire remonter au Christ. Sinon, c'est un faux charisme.
C'est intéressant de voir, effectivement, chez saint Paul, il prend de la hauteur sur la factualité qu'on pourrait des fois un petit peu réduire. Il va jusqu'à l'identification, en réalité. Le Christ, j'ai été crucifié, de sorte ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi.
Oui, oui. Oui, de fait, cela va même jusqu'au stigmate, puisqu'il dit à un moment, j'ai été marqué, j'ai été stigmatisé. Et c'est possible qu'il ait été l'un des premiers de cette longue, longue liste de l'histoire de l'Église. Nous avons répertorié peut-être plus d'une centaine de personnes qui ont été jusqu'à l'imitation, je dirais, concrète, c'est-à-dire ressentant dans leur corps les cinq plaies du Christ, le cou au côté, et les mains, les pieds qui ont ressenti les douleurs mêmes du Christ, par esprit d'une imitation qui est allée jusque dans le concret. Bon, c'est pas donné à tout le monde, mais je pense qu'elles sont données de temps en temps dans l'histoire du corps du Christ, pour bien nous montrer que l'Église est bien le corps prolongé qui, d'une certaine manière, actualise sans cesse la vie du Christ. Et puis, troisième point, donc, finalement, il ne s'agit pas seulement d'une imitation au niveau de la partie la plus élevée de nous-mêmes, qui est par l'âme ou par les actes, mais une vie en Christ. C'est-à-dire qu'il y a l'admirable échange où nous vivons en lui et lui en nous, hein, comme l'appelle l'évangile de Saint Jean, demeurez en moi et moi en vous. Hein, il y a cette possibilité de faire un corps à corps en quelque sorte, et c'est ce que réalise l'Eucharistie à chaque fois que nous communions. Nous vivons vraiment, par cet acte de la communion, une introduction en Jésus-Christ, dans ce qu'il est, dans son corps et dans son Église. Et d'un autre côté, nous avons le bénéfice qu'il vienne vraiment dans les profondeurs de notre cœur. Cet échange extraordinaire nous rappelle que nous pouvons vivre les mystères de Jésus, ainsi que le dit très bien un des théologiens spirituels de l'époque de Bossuet, hein, nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus, et le prier souvent, qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. C'est une citation de Saint Jean Eudes au numéro 521. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ses mystères en nous et en toute l'Église, par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ses mystères. Et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. Vous voyez, ce grand sentiment, finalement, qui a été révélé à Paul au moment où il allait à Damas pour persécuter les chrétiens, il a tout compris d'un coup. Quand Jésus lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu ? » Il a compris que ces chrétiens ne faisaient qu'un avec Jésus. S'il persécutait ces chrétiens, il persécutait Jésus. Et ça a été une sorte d'illumination qui l'a accompagné complètement, et qui lui a permis de dire ces paroles après ça extraordinaires. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et cette expérience de démarrage, d'illumination qu'il a eue, cette conversion, comme on l'appelle, de Saint Paul sur le chemin de Damas, ben, nous pouvons la faire nous aussi. Nous pouvons vivre avec intensité ces états et ces mystères de Jésus.
Merci, frère Edouard.
Avec joie.